Salut mon lieutenant. Alors,
ces échanges ont été enregistrés en mars 2015.
Oh bella ciao, 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 ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.
Alors, qui dit socialisme dit Marx, qui dit Marx dit prolétariat. On pourrait penser que la filiation est directe, il suffirait de s'inspirer des écrits de Marx et d'Engels pour définir le socialisme ou pour constituer un parti socialiste. Pourtant, ce que tu nous montres dans ton livre n'est pas du tout cette histoire, c'est une histoire bien plus complexe, diverse, conflictuelle, entre les partis se réclamant du marxisme, entre les différentes conceptions du socialisme. C'est donc sur ce point d'abord qu'on discutera ensemble, que tu nous expliqueras pourquoi effectivement ces diverses conceptions du socialisme. Et on finira sur la question d'actualité aujourd'hui sur qu'en est-il du socialisme, donc au niveau mondial, pourquoi pas, au niveau international. Et je te laisse la parole, Thomas Rousse, pour te présenter.
Je suis enseignant en histoire-géographie, je suis aussi militant lutte ouvrière et à la CGT, voilà, depuis de très longues années.
Et donc tes livres s'intitulent
Les socialistes en France de 1871 à 1914, tome 1 et tome 2, parce qu'il y avait quand même beaucoup à raconter.
Donc, tu peux peut-être nous dire comment tu as travaillé pour réaliser ces deux ouvrages, quelles sources?
Beaucoup de choses. Déjà des ouvrages de base. Hein. Pour moi, celui qui est le plus intéressant certainement sur la période, c'est Claude Villard, hein, qui a écrit 2-3 ouvrages, notamment sur les guédistes. C'est aussi, de fait, par mon engagement militant, je me réclame du marxisme, je me réclame du socialisme révolutionnaire. Et je m'étais intéressé aussi au mouvement ouvrier à Reims. J'y reviendrai un petit moment dans la discussion précédemment. Donc, j'avais découvert un petit peu cette période qui est très mal connue. Hein. On connaît la figure emblématique de Jaurès au mieux, mais derrière Jaurès, derrière d'autres qui sont un peu moins connus, comme bien sûr Jules Guesde, Paul Lafargue ou Édouard Vaillant, j'ai cherché à montrer que ces dirigeants de ce qui allait devenir la SFIO, derrière eux, il y avait des milliers, au début des centaines, mais après des milliers de militants, ouvriers, désintéressés, dévoués, qui avaient fait le socialisme dans leur ville, dans leur cité, dans les usines où ils travaillaient. Et c'est ça qui est passionnant, c'est que le socialisme en France, comme il se développe au début sur cette jeunesse ouvrière, hein, révoltée par les conditions qui leur sont faites. Alors, il faut imaginer que la France n'est pas du tout industrialisée comme on l'imagine à cette époque-là. On a encore beaucoup de petites unités de fabrication. Hein, les usines géantes comme le Creusot, Schneider avec 10 000 ouvriers, c'est l'exception. Hein, c'est des usines comme à Reims. Hein, Reims était une grande ville textile. C'est des usines de 500, 1000, 1500 maximum ouvriers et dans des conditions de travail terrible. Hein. On travaille 11 heures, 12 heures, 13 heures, 14 heures par jour, selon les métiers. Les salaires permettent à peine de vivre. Hein. Faut se rendre compte que l'alimentation plus le logement, c'est 75% du revenu ouvrier et ça permet rien du tout. Hein. Voilà. Donc, cette jeunesse ouvrière, elle a la rage. Elle va combattre, elle va former les premiers syndicats et elle va former les premières organisations socialistes. Moi, c'est ça qui m'a plu dès le départ dans cette période, hein, dans cette genèse du socialisme en France.
Alors, donc ton ouvrage « Les socialistes en France » est décomposé en deux tomes, avec, en année de partage, c'est 1898. Tu peux peut-être nous expliquer ce choix?
Alors justement, ce choix, c'est la rupture entre un socialisme qui se veut révolutionnaire ou qui se dit révolutionnaire et un socialisme qui va participer, un socialiste va participer pour la première fois à un gouvernement, donc à un gouvernement de la bourgeoisie. Hein, c'est Mirand, Alexandre Mirand, qui rentre au gouvernement en tant que ministre de Travail et de l'Économie, hein, si on veut. Ce sera à peu près ça ses compétences aujourd'hui. Et pour les socialistes, bah, c'est franchir le Rubicon, c'est franchir une ligne blanche. Hein, c'est-à-dire on ne peut pas pactiser avec la bourgeoisie, hein, on ne peut pas s'associer, il faut renverser le capitalisme et donc il faut détruire le pouvoir politique et économique de la bourgeoisie. Et donc là, on quitte ce domaine-là pour rentrer dans une gestion des affaires de la bourgeoisie. Donc c'est cette rupture qui est importante dans le mouvement ouvrier français qui va d'ailleurs... ils étaient à l'aube de s'unir hein, quand Mirand rentre au gouvernement et... ça va recréer une division importante. Pourquoi ? Parce que quand Mirand rentre au gouvernement, à ses côtés, dans le gouvernement Valdecrosso, il y a le général Galifet. Le général Galifet, c'est l'un des massacreurs de la Commune de Paris. Donc vous imaginez, pour des anciens communards, soit comme Édouard Vaillant, qui a été un des derniers combattants de la Commune au Père-Lachaise, qui a pu s'échapper, d'autres qui ont participé de loin, mais qui étaient quand même favorables aux communards, qui ont été obligés de partir de France, comme Jules Guesde, Paul Lafargue, ou encore, ça va me revenir, Jean Allemagne, qui était aussi un combattant de la Commune. C'est insupportable de voir leurs camarades de parti assis à côté d'un général qui a massacré des communards. Je rappelle que la Commune, selon les estimations, c'est de 18 à 35 000 morts hein, lors de la Commune de Paris qui ont été tués par les Versaillais. Donc c'est absolument insupportable.
Alors là, tu viens d'évoquer Mirand, Guesde, Allemagne. Tu peux peut-être nous présenter cette diversité qui caractérise les courants socialistes à l'époque.
Ah oui, alors ça vient de leur expérience. Hein. À partir du moment où les premières organisations, ce qu'on appelait la FTSF, c'est-à-dire les Fédérations des Travailleurs Socialistes de France, se forment en 1879 à Marseille, bon, au début, tout le monde est ensemble, même les anarchistes hein, sont là. Et donc, vous avez tous les courants du mouvement ouvrier qui vont être présents. Et au fur et à mesure de leur évolution, de leur première tentative électorale, de leur centre d'intérêt aussi, certains sont plus tournés vers le syndicalisme que vers la politique. Bon, on va avoir des courants qui se forment. Bon, le courant un peu, pour moi le plus central, bien sûr, c'est ce qu'on a appelé les guédistes, c'est-à-dire ceux qui sont les plus proches de Marx. Mais à côté se forme un courant, ce qu'on a appelé en 1882-83 le courant possibiliste, hein, c'est les guédistes qui les appelaient comme ça, puisque avec Paul Brousse, ils mettaient en avant le fait qu'il fallait arrêter de vouloir tout changer, tout avoir, il faut rentrer dans le domaine du possible. Donc de réforme en réforme, on pourrait peut-être aller vers le socialisme. Et ils basent surtout leur activité et leur action politique dans le cadre des municipalités qui viennent, dans la Troisième République, d'avoir de nouvelles compétences. Et ils pensent qu'au moins au niveau local, on pourrait avoir certains secteurs gratuits comme l'eau, comme le transport, comme l'alimentation, la pharmacie, qui pourraient suppléer aux carences et surtout, comment dire, aux conditions de vie dont je parlais avant, qui étaient particulièrement déplorables. Et donc, se crée un mouvement possibiliste qui va lui-même se scinder en deux, en 1889, parce que les possibilistes de Paul Brousse, ils aiment bien déjà la gamelle, hein, si je peux dire ça comme ça. Ils s'allient avec les radicaux et ils commencent à rentrer dans le système politique et bourgeois de gérer les affaires. Alors, là, je suis très dur avec eux. Ils se disent en même temps révolutionnaires et marxistes. Donc, c'est là toute la contradiction. Et enfin, il y a un dernier courant qu'on a appelé blanquiste, du nom d'Auguste Blanqui, le grand révolutionnaire français, qui, de 1848 à 1880, à sa mort, a été le personnage emblématique un peu de la révolte épidermique contre la misère en France. Qui a passé la moitié de sa vie en prison quand même. C'est pas n'importe qui, Blanqui. Et son héritier au départ, c'est Édouard Vaillant. Édouard Vaillant, le communard dont je parlais. Et Édouard Vaillant, quand il a quitté la France, qu'il a pu quitter la France après la Commune, est allé vivre à Londres. Et là, il est tombé sur Marx et Engels, avec qui il a sympathisé. Ils ont sympathisé bien. Et... en fait, Vaillant, dès les années 1814-1815, s'éloigne un peu des enseignements du maître Blanqui et devient réellement marxiste. Mais il va avoir du mal à convaincre ses propres militants de tout ça. Et donc, on va avoir quatre courants qui vont se développer dans le mouvement ouvrier français parallèlement.
Alors, les quatre courants, tu peux donc synthétiser rapidement.
Guédiste, ouais. Guédiste, possibiliste, almaniste et vaillantiste.
D'accord.
Donc tu évoques au moins deux tendances et des sous-tendances en plus. Deux tendances, une réformiste, une révolutionnaire, mais qui, il me semble que tu l'écris dans ton livre, sont ces deux tendances donc d'accord pour défendre la République.
Alors oui, tout à fait. C'est l'un des écueils auxquels va se confronter le mouvement socialiste français. C'est leur analyse de ce qu'est la République. Pour eux, la République est un système supérieur. Supérieur à la monarchie, supérieur à l'Empire. Et donc, quelque part, c'est progressiste. Et donc, c'est un système à défendre. Et justement, c'est là où va y avoir justement le personnage politique qui va marquer la France de la Troisième République, c'est bien sûr Jaurès, qui va être un ardent républicain. Qui va même être associé quasiment à la vie de la République au plus haut niveau, parce qu'on parlera de lui comme le numéro 2 caché du gouvernement radical dans les années, au moment du bloc des gauches. C'est presque lui qui est derrière un petit peu les propositions de loi, etc. Bon, y compris sur la laïcité, la loi de 1905. Donc, il va mettre en avant le fait qu'il faut protéger la République comme système supérieur à tous les autres. Et ça va l'amener, et ça va amener le mouvement socialiste, on en parlera un petit peu plus loin, mais à considérer que face aux empires, comme l'Empire allemand, l'Empire d'Autriche-Hongrie, l'Empire russe, c'est un système supérieur qui mérite d'être protégé, y compris par les armes, par la guerre, face aux empires, aux monarchies.
Et mais on ne peut pas vraiment être contre cette idée-là.
Laquelle ?
Celle de défendre la République, parce que si on regarde la Troisième République, c'est quand même l'émergence de l'État social, de l'État-providence ou l'État social, avec des lois quand même qui sont importantes sur le travail des enfants, la retraite.
Je suis en complètement désaccord.
Oui, c'est pour ça que je pose la question.
Je suis complètement en désaccord, puisque... la loi sur les retraites, qui est votée en 1910, pour prendre celle-là, déjà en premier, la CGT l'appelait une retraite pour les morts. parce qu'il fallait atteindre 65 ans, c'était une retraite par capitalisation. 95% des ouvriers étaient morts à 65 ans. Hein, l'espérance de vie ouvrière, c'était 45, 46 ans. Donc, faire cotiser, parce que c'était une ponction sur les salaires qui n'étaient déjà pas élevés, pour une retraite que les ouvriers n'auraient jamais. Alors, bien sûr, les réformistes disaient, mais c'est un premier pas. Hein, ça va s'améliorer. Hein, mais bon, d'ailleurs, Jules Guesde, qui était député à ce moment-là, est un des seuls députés à s'opposer à cette loi sur les retraites. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est pour dire que c'est une supercherie, cette retraite pour les morts. De la même manière, la loi sur le travail des enfants, elle était largement contournée. Hein, il n'y avait pas d'inspecteur du travail, etc. Il n'y avait pas d'amende, même si respectait pas. Et même au moment de la mise en place par Mirand, hein, ce qu'on appelait la loi Mirand-Colliard, de cette loi, pour le travail des enfants, pour retarder le travail des enfants, pendant quand même 2 ans, les enfants vont travailler plus longtemps qu'avant, parce qu'il fallait adapter le système. Donc c'était une subtilité qui avait été votée par le Sénat, et donc on n'avait pas une réduction du temps de travail. Bon, et tout était à l'avenant, c'est-à-dire que les progrès donnés, soi-disant, par la République, ils sont très limités, et même sur l'école. Hein, on pourrait dire, ah, c'est super, l'école, bon, je ne vais pas faire un cours d'histoire, mais... Bon, Jules Ferry, déjà, c'est une conception réactionnaire de l'école. Hein, de préparer l'enfant à défendre la nation, etc. C'est la mise au pas de la jeunesse. Et ça ressemble un petit peu à ce qu'on connaît aujourd'hui, hein, quand même, avec le service national universel, peut-être demain, lever des couleurs, en chantant la Marseillaise, ça sent pas bon. Et l'instruction publique, elle a été faite parce que la France se transformait de manière économique et sociale. Pour avoir des ouvriers qui puissent manier des machines, il faut bien qu'ils sachent lire, compter, calculer, écrire. On a besoin d'une élévation du niveau de compétence. Et donc l'éducation, l'instruction publique, elle a vocation à ça et pas à émanciper dès le départ. C'est justement le combat des socialistes et du mouvement ouvrier pour dire ça suffira pas. Et c'est pour ça que ce qui était passionnant dans l'histoire du syndicalisme aussi, parce que j'ai essayé de lier ça, c'est le développement des bourses du travail. Dans chaque bourse du travail, il y avait une bibliothèque, hein, il y avait aussi des cours d'enseignement professionnel, et il y avait une bibliothèque pour se former intellectuellement à s'émanciper. Hein, à Reims, il reste encore il reste à la CGT 3000 livres de cette période et postérieure. Bon, j'estime qu'il devait y avoir à peu près 12 000, 14 000 livres dans la bibliothèque ouvrière de la Bourse du Travail de Reims. Et il y a des bouquins très précieux. Hein, on parlera peut-être, mais par exemple, il y a une édition originale de Pelloutier sur la vie ouvrière en France de 1900, qui est encore à la Bourse du Travail. Bon, il y avait cette volonté de dire, bon, l'école, c'est une chose, mais nous, on va se former, s'émanciper, se libérer de l'exploitation.
J'aimerais revenir un petit moment sur le point précédent.
Oui, vas-y.
Donc, la volonté, qu'on soit socialiste, révolutionnaire à l'époque ou réformiste, de défendre la République. Défendre la République, c'est, me semble-t-il, accepter son fonctionnement institutionnel et entrer dans le jeu électoral, non ?
Alors, je reviens là-dessus. Bon, défendre la République, ça pouvait encore avoir un sens quand on sortait du Second Empire, quand on sortait... faut bien imaginer que la République, elle n'existe que virtuellement, quasiment, quand elle se met en place, la Troisième République, dans les années 1870, début des années 1880. Hein, la République, c'est au maximum... pour la Révolution française, 1792-1795, donc 3 ans. Allez, on peut prendre le directoire avec, tout au moins, aller jusqu'à 1799. La Seconde République, c'est 2 ans, hein, 48-1851. La République, elle est virtuelle. Ce qui a dominé après la Révolution française, on a souvent tendance à l'oublier, c'est la Restauration monarchique et l'Empire, hein, les deux empires. Donc... ça peut se comprendre, les menaces, elles sont encore réelles sur l'existence de la République. Elle a une existence précaire dans les années 1870. Mais dès les années 1890, ce que souligne Engels notamment, c'est que la bourgeoisie se rend compte que la République n'est pas un danger, hein, qu'on peut tout à fait avoir un système républicain qui préserve les intérêts de la classe bourgeoise. Et y compris ceux qui étaient le plus défiants en partie vis-à-vis de la République, qui était la paysannerie, moyennes, ou riches, ou même pauvres, hein, se rendent compte que ben, le système républicain leur convient tout à fait. Donc il n'y a plus de menace sur le système républicain. Et c'est pour ça que lors de l'affaire Dreyfus, hein, parce que c'est là où Mirand va rentrer au gouvernement, il y a une tentative des monarchistes, des cléricaux, etc., de renverser la République. Mais elle se dégonfle complètement. Et l'argument de Jaurès de dire il faut que Mirand rentre au gouvernement pour aider à sauver la République, bah cet argument-là, il n'est plus vrai dans la situation que connaît la France à cette époque-là.
Enfin, même, enfin, je vais me faire l'avocat du diable.
Donc, t'aimes bien mais, ça.
Oui,
dans beaucoup d'émissions, t'aimes bien.
J'aime bien. Donc même si effectivement on peut agréer à ce que tu dis. Bon, je veux dire, bon, la République, c'est comme le droit, c'est comme la liberté, etc. Elle est quelque part toujours à défendre, quoi. Elle est toujours remise en cause. Hein. Enfin, la liberté, l'égalité, la fraternité. Alors, je sais bien que, donc, entre les droits formels et les droits réels, bon, il y a un gouffre. Mais on peut dire quand même qu'il y a toujours une défense à mettre en œuvre de ces droits fondamentaux. C'est peut-être indépassable. Même à l'intérieur du socialisme, je veux dire, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité. À la limite, même à l'intérieur du socialisme, ça serait à défendre. Parce qu'on...
Bon, liberté, égalité, fraternité, bon... permets-moi de douter des droits, même. Que l'on défende la liberté... de pouvoir se présenter aux élections, que l'on défende la liberté de la presse, la liberté de manifester, etc. Bon, ça, tout à fait d'accord. Mais ça, dans n'importe quel système, il faut le défendre, que ça soit l'Empire, la monarchie ou la République. Je rappelle quand même que, on est soutenu dans un système républicain. Moi, je fais partie de la CGT. Il y a plus de 1000 militants CGT qui sont inquiétés par la police et la justice en ce moment, par leur action au moment du mouvement des retraites qui a eu lieu l'année dernière. Même moi, j'ai été convoqué à la police l'année dernière pour une manifestation précédente, etc. Donc, il y a une pression qui s'exerce sur les militants. Je ne reviens pas sur l'épisode des Gilets jaunes, mais bon, de fait, quand je dis « je ne reviens pas », j'y reviens quand même. Le nombre de gens qui ont été éborgnés, blessés par les forces de police pose question quand même. Hein, et pas seulement moi qui dis ça, hein, c'est l'ONU, c'est des organismes internationaux qui ont dénoncé la violence policière qui a eu lieu lors de ces manifestations. Donc, oui, qu'on défende des libertés de manifester, d'expression, de presse, etc. Bon, oui, ça paraît tout à fait légitime. Mais la République, c'est pas ça. La République, c'est quand même, tous ces droits sont acquis à condition qu'ils ne troublent pas l'ordre public. Tous peuvent être suspendus. C'est quoi l'ordre public ? Il y a un droit dans la République, comme tout système de classe, c'est le droit de propriété. Et ça, c'est intouchable. Eh bien, quand on est socialiste révolutionnaire, quand on est communiste révolutionnaire, notre problème, c'est d'exproprier. Et c'était ça leur problème aux socialistes, c'est d'exproprier la bourgeoisie. Donc s'attaquer aux droits de propriété des moyens de production. Donc de fait, on est en conflit vis-à-vis de cette république qui protège l'ordre établi. Donc, ce dont avaient tout à fait conscience les socialistes révolutionnaires, à cette époque-là, que ça soit Guède, Lafargue, ils vont faire des tours, des séjours en prison. Hein. C'est pas la République les foutra en tôle. Hein. Les communards comme Édouard Vaillant, comme Jean Allemagne, ils ont pris les armes lors de la Commune pour justement, comme disait Marx, se lancer à l'assaut du ciel et transformer la société, faire une société égalitaire. Et on ne peut faire une société égalitaire qu'en comprenant le pouvoir économique et social de la bourgeoisie. Donc ça veut dire, bien sûr, renverser la République bourgeoise. Moi, je ne suis pas républicain. Hein, mon opinion, ce n'est pas d'être républicain. Mon opinion, c'est d'être un socialiste révolutionnaire ou un communiste révolutionnaire. Parce que, on déborde un peu, mais j'apprécie dans ces militants, c'est la rage qu'ils avaient pour changer le monde. Hein, qu'on a un peu perdu. C'est ça qu'a fait le mouvement ouvrier français. Cette aspiration à renverser la société et de faire une société égalitaire. Aujourd'hui, dans ce monde, il y a une personne sur huit qui souffre de la faim. On peut nourrir 12 milliards d'habitants, on est 8 milliards sur la planète. C'était... Mais franchement, c'est une honte, ce système économique qu'est le capitalisme. C'est révoltant. Bon, je ne vais pas prendre plein d'exemples. Aujourd'hui, on va ratiboiser encore les dépenses de santé. Hein, on parle même de ne plus couvrir complètement les maladies longues. Mais c'est révoltant dans un pays aussi riche que la France. Hein, y a de quoi être en colère et révolté. Donc cette révolte, ben, les militants de cette époque-là, ils l'avaient. Et ils pensaient bien sûr, qu'il fallait changer la société. Peut-être défendre la République, mais la République ne pouvait pas, pour les socialistes révolutionnaires, c'est la différence avec Jaurès, la République ne pouvait pas conduire au socialisme. C'est la séparation qu'il y a entre le réformisme et la révolution. Le plus clairvoyant sur cette question de la République, c'est bien sûr Lafargue, en France. Mais je me souviens de cette citation de Bebel, le grand socialiste allemand, qui disait « Autant on peut... » Il répondait ça à Jaurès. « Autant on peut envier votre République... » Parce qu'eux, ils étaient dans un système, d'empire, où la social-démocratie allemande n'avait quasiment aucun pouvoir, parce que c'était une chambre consultative. Hein, c'était le Kaiser qui décidait de tout. Et donc, il n'y avait pas de réel pouvoir à l'Assemblée au Reichstag, à l'époque. Mais Bebel disait, autant on peut vous envier votre République, autant on ne se fera pas casser la figure pour elle. Ça résumait tout. La République française, quand il y a un congrès, ça doit être en 1898, un congrès de l'international socialiste qui se fait à Paris, les internationaux socialistes vont rendre hommage à la Commune. C'est le gouvernement Mirand. Mirand est au gouvernement, c'est le gouvernement Waldeck-Rousseau. Que fait le gouvernement? Il fait matraquer les internationaux qui vont rendre hommage à la Commune. Donc il y avait vraiment une défiance aussi vis-à-vis de cette République bourgeoise.
Ou des débats qui, bon, a priori, où j'ai loupé, hein, qui n'apparaissent pas trop dans ton livre, c'est donc entre les tenants de ce qu'on appelait à l'époque donc les collectivistes, hein, et puis les tenants donc de l'association, ou de l'associationnisme, comme on dit, ou entre les marxistes et les anarcho-syndicalistes, etc. C'est quand même deux conceptions du socialisme bien différentes. Hein. Donc, à l'époque. Hein. Donc une qui est ce, bon, qu'on pourrait dire aujourd'hui verticale, hein, pour reprendre les termes d'aujourd'hui, et l'autre beaucoup plus horizontale. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus ?
Oui, moi, je suis pas trop d'accord avec cette vision verticale et horizontale. C'est comment dire, une vision un peu réductrice du marxisme ou du socialisme marxiste. Non, l'association avait été tentée, hein, que ça soit après 1848 avec Louis Blanc, etc., que ça soit même, c'était proposé par Proudhon, l'association qui pourrait se substituer au pouvoir du capitalisme. Bon. Il y a eu des coopératives, j'en parle un peu dans le livre, hein, justement.
Oui, oui.
Ces coopératives, elles avaient pour but, au début, c'était de faire des coopératives de consommation qui auraient permis d'avoir le capital nécessaire à faire des coopératives de production. Bon. Mais ça, c'était le plan de départ. Bon, ça s'est fait quelques fois qu'il y ait des coopératives de production, mais ça s'est limité à des coopératives de consommation. Et ces coopératives de consommation, faut reconnaître un mérite, c'était d'essayer de, comment dire, d'avoir des produits moins chers pour les travailleurs, pour les classes populaires. Ça, tout à fait légitime. Mais ça n'a pas changé le système capitaliste. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, bah, la coopération, on parle encore maintenant d'économie, sociale et solidaire. On parle de mutualisme, etc. Mais quand on voit les mutuelles, ce qu'elles sont devenues aujourd'hui, elles sont devenues des entreprises capitalistes comme les autres. Hein, les quelques entreprises de coopératives de production, elles ont disparu. La dernière, une des grandes, même si c'était avec un grand paternalisme, Godin, les poils Godin, qui était inspiré par Fourier, s'est fait rattraper par le capitalisme. Le capitalisme, c'est un système dynamique et destructeur. C'est ça sa force. Il est destructeur, y compris parfois pour une partie de la bourgeoisie qui perd, l'autre gagne, etc. Il n'y a rien que se perd sous le capitalisme. Hein. C'est quelqu'un perd, c'est que l'autre a gagné. C'est des requins entre eux. C'est un système dynamique et prédateur. Et donc, c'est là où on pourrait prendre plein d'exemples. J'ai pris l'exemple de la faim dans le monde. C'est pas un problème de capacité de production, c'est un problème de répartition de richesse. Bon, c'est un système qui est comme ça. Bon. Et donc, les coopératives de consommation et les coopératives de production, elles se sont rangées dans le système parce qu'elles n'avaient pas le choix et elles ont disparu. Maintenant, ce que tu évoques, l'anarcho-syndicalisme, le syndicalisme révolutionnaire, est plus intéressant. Et justement, il vient en réaction à une idée que je n'ai pas vraiment développée jusque-là, qui est l'intégration des socialistes dans le système électoral. Ils vont être gagnés par l'électoralisme à partir de 1893. Y compris les guédistes. Il n'y a que les guédistes, c'est-à-dire la partie la plus révolutionnaire du mouvement socialiste, vont être gagnés par l'électoralisme. Ils se disent, les ouvriers sont de plus en plus nombreux, nous avons de plus en plus de victoires électorales, nous allons gagner la majorité et nous allons pouvoir transformer la société. Engels s'inquiète juste avant de mourir de cette évolution du socialisme français qu'on retrouve d'ailleurs en Allemagne, en Autriche, etc., dans tous les pays, où on va s'intégrer et on va avoir même ce qu'on a appelé dans le mouvement socialiste le révisionnisme, c'est-à-dire que Marx s'était trompé, hein, les crises, il n'y en aurait plus, le système pourrait évoluer pacifiquement vers le socialisme à condition qu'on gagne les élections. Bon, ça c'est le révisionnisme qui est formulé par Bernstein au même moment, mais qui est, d'une certaine manière, repris par Jaurès. Les crises qu'on connaît depuis un siècle, Marx s'est pas trompé, désolé pour ceux qui ont cru, hein, notamment la crise de 1929, des guerres qui sont quand même l'aboutissement de crises entre bourgeoisie qui provoquent des guerres. L'électoralisme a pourri le mouvement socialiste révolutionnaire. Et instinctivement, la classe ouvrière a eu cette perception que par les élections, on n'y arriverait pas. Et c'est pour ça que le syndicalisme révolutionnaire s'est développé en réaction à cet électoralisme, de la social-démocratie française, et s'est développé de manière très fortement, avec des militants de valeur, parfois comme Pelloutier.
Français.
Oui. Alors, le français, c'est avant, hein, Gustave le Français. C'est la période d'avant. Gustave le Français, il doit mourir en 1880, à peu près au même moment que Blanqui. Hein. Non, c'est Pelloutier, c'est d'autres.
D'où, je voulais aussi qu'on discute de deux dates, d'où la charte d'Amiens.
Alors, la charte d'Amiens, oui, c'est ça, parce que c'est... la charte d'Amiens, c'est la volonté. Alors là, c'est en 1906, c'est la volonté de couper le mouvement syndical, la CGT, des influences réformistes qui s'expriment dans le mouvement socialiste français. C'est cette défiance. Il faut imaginer quand même que la politique de Jaurès, l'électoralisme de Jaurès, la politique de Jaurès, amène à soutenir des gouvernements radicaux, du parti radical. Ça n'existe pas encore le terme parti, mais bon, ça va se créer après, mais c'est du... voilà, c'est les radicaux qui sont au pouvoir. Et ces gouvernements de 1902 à 1906 massacrent des grèves. Et pour ne pas faire chuter le gouvernement, les socialistes sont amenés, pas tous, hein, ils se divisent sur cette question-là, à soutenir à l'Assemblée nationale des gouvernements qui font massacrer, qui en Martinique, qui à Chalon-sur-Saône, des ouvriers en grève par l'armée. Bon, faut quand même imaginer ça. Donc, les syndicalistes révolutionnaires qui voient ça, que les socialistes sont capables d'aller voter pour un gouvernement qui massacre les ouvriers en grève, eh ben, on est arrivé à un niveau de pourrissement contre lequel il faut protéger le mouvement ouvrier. Et ça va continuer. Clémenceau est idolâtré, mais Clémenceau, c'est le premier flic de France à cette époque-là, qui va devenir chef du gouvernement jusqu'à 1909. Il y a un... c'est... je me souviens plus de son nom, mais c'est le député socialiste du Nord qui dit comme ça, « Quand je vois sur les rangs du gouvernement, sur les bancs du gouvernement Clémenceau, j'ai toute confiance dans ce gouvernement. Lui, il va passer 3 ans à massacrer les ouvriers. Les dirigeants de la CGT vont aller en tôle. Il va y avoir des grèves qui sont massacrées. » Et c'est qu'en 1909 que les socialistes vont retirer complètement leur soutien au gouvernement Clémenceau. Donc, il y avait une rage. Et en même temps, il y avait cette affiche de la CGT qui dénonçait le fait que 2 anciens socialistes, Viviani et Briand, étaient au gouvernement. Alors, ils avaient sorti une affiche à CGT anarcho-syndicaliste. Ce gouvernement de criminels et d'assassins, Clémenceau, Viviani, Briand. Bon, donc, c'est de cette tendance la plus réformiste des socialistes à aller à la gamelle, à aller au gouvernement, qui explique cette réaction viscérale de classe, hein, des syndicalistes révolutionnaires et de la classe ouvrière. Il y a des bouquins de Poulaï, qui est un auteur prolétarien de cette époque-là, qui raconte ça. Ils avaient vraiment un dégoût pour ces gens qui s'étaient vendus à la bourgeoisie.
Donc d'où la charte d'Amiens. Est-elle aussi, cette charte d'Amiens de 1906, une réponse à la création, un an plus tôt, de la SFIO? Et on l'évoque souvent, on entend dire de la SFIO que c'est une unification des courants socialistes. Est-ce pas une déformation de l'histoire?
Alors, il y a 2 choses. Là, dans ta question, c'est très, très compliqué d'y répondre parallèlement. La CGT, elle est indépendante. Elle se veut indépendante de la SFIO. Bon, c'est pas obligatoirement le meilleur des choix qu'elle fait. Elle fait ce choix parce que la SFIO devient, un allié objectif du parti radical qui est au gouvernement. Donc il faut préserver ça. Bon, après, la question de l'unité socialiste, c'est autre chose. L'unité socialiste, elle se fait justement à contre-courant de ce qui se fait, notamment dans un pays qui est la Russie. Unir ceux qui se réclament de la révolution à ceux qui se réclament du réformisme, unir à ce moment-là en 1905, même si Gued et Lafargue c'était déjà, mais surtout Gued c'était déjà un petit peu convaincu que l'électoralisme c'était pas génial, mais bon, ils y avaient quand même participé. Bah, la tendance la plus réformiste représentée par Jaurès, c'est à contre-temps de ce qui se passe en Russie, où justement Lénine lui dit faut se couper de cette tendance réformiste, électoraliste, et préparer un parti mondial de la révolution, et en tout cas un parti révolutionnaire en Russie. Bon, et justement, c'est là où ça va se payer très cher pour la classe ouvrière française, de ne pas avoir un parti révolutionnaire. Parce que l'objectif de Guel et de Lafargue, c'était de faire un parti révolutionnaire. Et ils ont été rejoints dans cette perspective pendant un temps par Édouard Vaillant. Un parti qui prépare la révolution, qui prépare une implantation socialiste dans tout le pays pour renverser la bourgeoisie. Et bien ça, cet objectif-là, il va se perdre. Et au fur et à mesure que la SFIO va devenir de plus en plus réformiste, jusqu'à accepter une chose, l'Union sacrée en 1914, derrière sa propre bourgeoisie.
Alors, on va peut-être actualiser un petit peu les questions. Donc on a vu que la définition, que les débats étaient nombreux entre les socialistes, marxistes, etc. Et donc, aujourd'hui, alors, après des expériences qu'on peut dire quand même relativement malheureuses, en Union soviétique, donc d'hier, et en Chine, etc., ça serait quoi un petit peu l'idéal du... Enfin, quelles conséquences donc le mouvement socialiste a-t-il tiré de ces expériences dramatiques, on peut dire, quand même, hein ?
Alors moi, je vois déjà une différence entre la Russie et la Chine. Hein. Pour moi, la Chine n'a jamais été ni socialiste ni communiste, elle s'en revendique, mais des bases des idées socialistes révolutionnaires et marxistes, c'est que c'est le prolétariat qui doit prendre le pouvoir. Le prolétariat, en Chine, n'a jamais pris le pouvoir. Il l'a pris en Union soviétique, hein, en Russie, il l'a pris. Bon. Mais ce n'a pas été le cas du tout en Chine. C'est l'armée populaire de Chine. Les paysans le voyaient cette armée avec des yeux qui étaient positifs, parce que par rapport au système féodal dans lequel ils vivaient, c'était bien mieux. Mais c'est pas les travailleurs qui ont pris le pouvoir. Hein, c'est pas les travailleurs. Il faut, pour qu'il puisse y avoir socialisme, que les travailleurs aient non pas leur mot à dire, mais fassent les changements. Les fassent, les décident. Et c'est ce qui s'est fait en URSS. Hein, pourquoi l'URSS s'appelait comme ça ? L'URSS, c'est pas le nom d'un pays. Hein, c'est l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Alors, tout le monde a oublié ça, mais soviétique, c'est... Ça veut dire conseil, ça veut dire comité. Ça veut dire qu'il y avait une réelle... C'est les travailleurs eux-mêmes qui ont changé la société en Russie. C'est eux qui... ou c'est des paysans pauvres qui prenaient eux-mêmes. Hein, Lénine signe un décret sur la terre, mais les paysans se partagent déjà la terre. Donc, c'est la différence, elle est là. Et donc, elle est importante, parce qu'autrement, on ne comprend plus rien. Moi, ce sur quoi je veux insister, c'est que ces expériences, tu dis, elles sont malheureuses. Oui, hein, le courant auquel j'appartiens, le trotskisme, a payé très cher en URSS. Hein, ils se sont fait tous exécuter par Staline et sa bande. A payé très cher la stalinisation, la bureaucratisation de l'Union soviétique. Mais je tiens à dire quand même que si ces conditions ont été favorables à Staline, c'est parce qu'il y a eu aussi, après la Première Guerre mondiale, une trahison de la social-démocratie. Qui fait assassiner Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht en Allemagne ? Les sociodémocrates en accord avec le QG allemand, les forces militaires allemandes. Bon, qui écrase la révolution hongroise ? Pareil. Qui écrase la révolution finlandaise ? Qui fait pas ce qu'il faut ? Ben, la social-démocratie finlandaise. Bon, donc, on a une situation où la Russie soviétique, elle se retrouve toute seule. Il est advenu ce qui est advenu, c'est-à-dire que la bureaucratie a pris le pouvoir contre les travailleurs et contre toute forme de démocratie. Mais les premiers responsables de cette évolution, c'est ceux qui ont trahi la révolution à l'issue de la Première Guerre mondiale. Et justement, je pense qu'aujourd'hui, les enseignements à tirer, c'est ça. C'est-à-dire, pour ça que je suis trotskiste, hein, et pour ça que je me définis comme socialiste révolutionnaire, c'est que oui, si demain il y a une explosion révolutionnaire, il faudra pouvoir internationaliser le mouvement, pouvoir faire en sorte que renaisse dans la société un véritable courant internationaliste et révolutionnaire.
Donc l'Union soviétique,
d'après ce que tu dis, donc ça serait toujours vu comme une dégénérescence d'un socialisme originel, des soviets, etc. Et ça ne serait pas une logique interne au léninisme, par exemple. Donc, hein, c'était quand même un débat dans les années 60-70. Donc une logique interne au léninisme qui produit effectivement ce que certains ont appelé une société totalitaire, etc. Non,
non.
C'est l'extérieur.
Oui, non, mais bien sûr que...
C'est une grande question.
On s'éloigne un petit peu, mais en même temps, on s'en rapproche. Quand on est assiégé, à un moment, la Russie soviétique, c'est Moscou-Pétrograd, quasiment. On est assiégé de toutes parts. Qu'on subit des interventions étrangères, françaises, anglaises, japonaises, américaines, j'en oublie certainement, roumaines, quand tous ces corps francs qui sont aussi financés, les armées blanches qui sont aussi financées par l'impérialisme occidental, c'est un drame pour la Russie. C'est un drame qui se paye à coups de millions de morts. Ceux qui vont permettre la victoire de l'URSS face aux agressions, c'est les militants les plus convaincus. C'est eux qui vont constituer l'armée rouge. Ceux qui vont mourir en premier, c'est les révolutionnaires. Et c'est la classe ouvrière révolutionnaire qui va mourir en premier en défendant l'URSS. Et après, quand on a un PIB de la Russie en 1921 qui est en recul de 70% par rapport à celui de 1913, quand on crève de faim, quand on a des cas de cannibalisme qui se répandent dans le pays, quand les propres enfants de Trotsky meurent, il en a perdu deux, de maladies dues à la pauvreté. Ça situe les dirigeants, eux-mêmes, ils étaient victimes de la situation dramatique dans laquelle la Russie soviétique était plongée. C'est une lutte à mort. Et je reviens sur la Commune de Paris. Si la Commune de Paris, elle avait été analysée par Lénine Trotsky, c'était la première tentative de la classe ouvrière de prendre le pouvoir. C'était quoi le résultat de la Commune? C'était l'écrasement des communards. Et en plus, au moment où la Russie soviétique se bat, en Allemagne, les révolutionnaires se font écraser, en Autriche, ils se font écraser, en Hongrie, ils se font écraser. Bon, je ne vais pas continuer la liste. Donc, ils savent très bien que s'ils perdent la guerre révolutionnaire, ils se font écraser. Et avec eux, la classe ouvrière russe. Donc, c'est une lutte à mort. C'est là où ça... après, tu payes le prix. La Russie, elle est... Tu veux faire un soviet d'usine, il n'y a plus d'usine qui fonctionne. Tu veux faire un conseil de quartier, et les quartiers sont vides. Je prends l'exemple toujours de ça. Petrograd, Saint-Pétersbourg, aujourd'hui, 700 000 habitants. À la fin de la guerre révolutionnaire, 200 000 habitants. Donc, ta démocratie ouvrière, ta démocratie socialiste, elle a perdu de sa chair, elle a perdu de son sang pour vivre. Les gens, ils sont plus occupés à essayer de trouver de quoi bouffer que... ils ont gagné, mais avec des conditions qui étaient telles que ça... Le prix à payer après était très lourd. Mais ça, c'est aussi... Pour moi, c'est pas la responsabilité de Lénine, de Trotsky. Pour moi, c'est la responsabilité de ceux qui ont trahi les idéaux socialistes et révolutionnaires. C'est Noske, Schenemann, en Allemagne, qui ont donné ordre de flinguer Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht. Oui, par exemple. J'en veux plus à eux.
Oui, mais alors, donc, tu évoques Luxembourg et Liebknecht. La révolution d'octobre vient d'avoir lieu et déjà Rosa Luxembourg écrit avec en émettant des critiques fortes sur le fonctionnement du parti de Lénine, quoi.
Bien sûr, mais c'est là où on a une vision il se cachait pas d'avoir des divergences, etc. Mais réellement, ok, elle avait des critiques, mais elle soutenait la révolution russe. Elle soutenait la révolution russe. Ça, c'est indéniable. Donc, on peut avoir des critiques et soutenir totalement. Ce qu'ont pas fait, par exemple, les anarchistes en France, ce qu'ont pas fait les socialistes en France, pour une partie. Bien au contraire. Donc, non, il n'y a pas... c'est pas parce qu'on a des critiques sur... il faut quand même aussi se méfier d'une chose. Rosa Luxembourg était en tôle à ce moment-là. Et oui, elle était en tôle. Elle a été libérée qu'en 1918, à la fin, en novembre 1918. Et donc, les informations partielles qu'elle pouvait avoir, Bien sûr qu'elle pouvait avoir des informations, des critiques sur la façon de faire, etc. Mais globalement, elle était solidaire de la révolution russe. Mais vous pouvez reprendre tous les écrits de Lénine et de Trotsky qui saluaient Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht comme des soutiens. Ils avaient même prévu d'envoyer des moyens pour soutenir la révolution allemande. Donc, mais cette vision un peu, elle est venue après. Les historiens ont tendance à faire l'histoire en sachant comment elle s'est finie. Donc c'est facile de retrouver, ah bah oui, elle a eu cette critique-là, bah, elle avait bien raison parce qu'il s'est passé ça 10 ans plus tard. Bah, d'accord, mais c'est pas comme ça que se comportent des révolutionnaires. Les révolutionnaires, ils avancent. Et, Lénine lui-même, il avait des réserves. Mais il faisait ce qu'il pouvait. Trotsky faisait ce qu'il pouvait. Quand, un moment difficile en 1920, sur le front, l'armée rouge recule, Trotsky se porte à la tête des troupes, à la tête, hein, pour relancer l'offensive, autrement ils vont se faire écraser. Bon, Lénine lui écrit, mais t'es complètement con, là, tu te mets à la tête des troupes, on a trop besoin de toi, etc. Bon c'est des révolutions. Ils pensent pas... pour donner une image, quand la révolution d'octobre a duré plus longtemps que la Commune de Paris, eh ben, Lénine, il a fêté ça. Il a dit, je croyais pas qu'on tiendrait aussi longtemps. Ils se posaient pas le problème dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ils espéraient, ils ont dit, quand les bolcheviks prennent le pouvoir avec la classe ouvrière en octobre 1917, la première déclaration de Lénine, c'est « Je salue la révolution russe comme première étape de la révolution mondiale ». Les révolutionnaires, ils savent pas où ça va tomber, une révolution. Hein, vous savez, peut-être que demain, tiens, je pense à un pays qui est exsangue, peut-être que ça sera en Haïti. Qu'il y aura une explosion révolutionnaire vu ce qu'ils vivent. Peut-être que ça sera en Iran. Peut-être que ça sera... On en a vu des pays où il y a eu des révoltes. Le problème, c'est qu'on n'a pas de parti révolutionnaire quand il y a des révoltes. Hein, je pense toujours, moi, ça me fait mal au ventre quand je vois les révoltes des pays arabes. Toutes écrasées. Ben, un parti révolutionnaire qui aurait été présent en Syrie, qui aurait été présent, bon, etc., je ne vais pas tous les faire. Un parti révolutionnaire communiste qui aurait été présent dans ces pays-là, eh ben, ça n'aurait pas laissé le champ libre aux frères musulmans, ça n'aurait pas laissé le champ libre à la dictature, ça n'aurait pas été... Et on aurait pu proposer quelque chose. Le problème des révolutionnaires, c'est que dans la plupart des cas, ils n'ont pas de parti ou ils n'ont pas d'organisation présente. En Russie, il y en avait une. Ça a marché. Après, ça a mal fini, mais il y a eu le stalinisme, mais ça a marché.
Ils s'embrassent au mois de janvier car une nouvelle année commence. Mais depuis des éternités, elle a pas tellement changé la France. Passent les jours et les semaines, y'a que le décor qui évolue. La mentalité est la même, tous des tocards, tous des faux culs. Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne. Des matraqueurs assermentés qui fignolèrent leur besogne. La France est un pays de flics, à tous les coins de rue y en a 100. Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément. Quand on exécute au mois de mars, de l'autre côté des Pyrénées, un anarchiste du Pays Basque pour lui apprendre à se révolter. Ils crient, ils pleurent et ils s'indignent de cette immonde mise à mort. Mais ils oublient que la guillotine chez nous aussi fonctionne encore. Être né sous le signe de l'hexagone, c'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment. Et le roi des cons sur son trône, je parierais pas qu'il est allemand. On leur a dit au mois d'avril, à la télé, dans les journaux, de pas se découvrir d'un fil, que le printemps c'était pour bientôt. Les vieux principes du XVIe siècle et les vieilles traditions débiles, ils les appliquent tous à la lettre, ils font pitié ces imbéciles. Ils se souviennent au mois de mai d'un sang qui coula rouge et noir, d'une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire. Je me souviens surtout de ces moutons effrayés par la liberté, s'en allant voter par millions pour l'ordre et la sécurité. Il commémore au mois de juin débarquement de Normandie. Il pense au brave soldat ricain qui est venu se faire tuer loin de chez lui. Ils oublient qu'à l'abri des bombes, les Français crient et vivent Pétain, qu'ils étaient bien planqués à Londres, qu'il n'y avait pas beaucoup de Jean Moulin. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est pas la gloire en vérité. Et le roi des cons sur son trône, me dites pas qu'il est portugais. Ils font la fête au mois de juillet en souvenir d'une révolution qui n'a jamais éliminé la misère et l'exploitation. Ils s'abreuvent de balles populaires, feux d'artifice et de flonflon. Ils pensent oublier dans la bière qu'ils sont gouvernés comme des pions. Au mois d'août, c'est la liberté, après une longue année d'usine. Ils crient vive les congés payés, ils oublient un peu la machine. En Espagne, en Grèce ou en France, ils vont polluer toutes les plages et par leur unique présence abîmer tous les paysages. Lorsqu'en septembre on assassine un peuple et une liberté au cœur de l'Amérique latine, ils sont pas nombreux à gueuler. Un ambassadeur se ramène, bras ouverts, il est accueilli. Le fascisme, c'est la gangrène à Santiago comme à Paris. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est vraiment pas une sinécure. Et le roi des cons sur son trône, il est français, ça j'en suis sûr. Fini les vendanges en octobre, le raisin ferment en tonneau. Ils sont très fiers de leurs vignobles, leur Côte du Rhône et leur Bordeaux. Ils exportent le sang de la terre un peu partout à l'étranger. Leur pinard et leur camembert, c'est leur seule gloire à ces tarés. En novembre au salon de l'auto, ils vont admirer par milliers dernier modèle de chez Peugeot qu'ils pourront jamais se payer. La bagnole, la télé, le tiercé, c'est l'opium du peuple de France. Lui supprimer, c'est le tuer, c'est une drogue à accoutumance. En décembre, c'est l'apothéose, la grande bouffe et les petits cadeaux. Ils sont toujours aussi moroses, mais y a de la joie dans les ghettos. La terre peut s'arrêter de tourner, ils rateront pas leur réveillon. Moi, je voudrais tous les voir crever, étouffés de dindes marron. Être né sous le signe de l'Hexagone, on peut pas dire que ça soit pendant. Si le roi des cons perdait son trône, y aurait 50 millions de prétendants.